Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a eu des choses que j'aurais pu éviter, par exemple, conduire sans permis, même si je pensais que j'avais le droit. Mais bon.
C'est la deux chevaux avec la Ferrari.
Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari, quelquefois c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon.
On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo et Stéphane Guy, les 23h06, la Liga arrive, mais pour l'instant on conclut avec le Barça. Je vous précise juste au préalable que Chelsea a battu Everton 6-0, c'est fini, Atalanta Vérone 2 en Italie.
Ah oui, quand même.
Après le Grenoble Angers de Ligue 2 chez nous, qui a fait 0-0. On a avec nous Johan, qui est socio du Barça, qui est un habitué de l'after, qui souvent vient...
Ah, c'est Johan
Oui, c'est le Johan, socio du Barça. Salut Johan.
Bonsoir à tous.
L'associé.
Juste petite info, Xavi donc dans sa conférence de presse du jour de veille de match a dit quand même qu'il était inquiet du fait des suspensions de Sergi Roberto et de Christensen. Voilà, il dit ça c'est clair que c'est pas bon pour nous quoi. Voilà ce que dit Xavi. Maintenant, toi le socio du Barça, Johan, qui connaît bien son club, qui connaît bien son passé en Coupe d'Europe, raconte-nous un petit peu ce qui se dit et ton degré de confiance à toi.
Déjà, c'est triste d'être perdu avec l'absence de Sergi Roberto et Christensen, mais ça, c'est un avis personnel. On va dire que vu les dernières années, surtout en Ligue des Champions, on ne crie pas victoire trop vite parce qu'on s'est pris quelques retours assez plein de rebondissements et de déceptions. Donc,
mais à domicile, vous en avez eu des comme ça?
Non, bah à domicile, ouais. La dernière fois qu'on a reçu le PSG, on en a pris 4 hein, quand même. Hein.
Ouais.
Dont 3 du numéro 7 habillé en blanc, qui devait s'entraîner pour son prochain transfert. Donc c'est assez... Le degré de confiance, il est pas super élevé. Et quand on entendait justement la conférence de presse de Xavi et même du président Laporta, c'est appel aux supporters, il faut une nuit magique, une ambiance digne du Camp Nou, alors qu'on va jouer dans un plus petit stade. Quand on commence à en appeler à la ferveur des supporters, c'est qu'on n'a pas un degré de confiance...
Moi, je pensais quand même qu'après la victoire de l'aller, tu pouvais un peu bomber le torse, quoi. C'est pas le cas.
Avec l'ancienne règle et le but à l'extérieur comptant double, oui. Là, en fait, on n'est qu'à un but. Enfin, le PSG marque dans les 5 premières minutes, c'est bon, ça repart à zéro. L'avantage de jouer à domicile, c'est dans ce stade-là, ils jouent pas depuis un an qu'on y est. Là, on a que des victoires par un but d'écart dans ce stade. Il y a sur là où on est à quasiment une vingtaine de matchs, je crois qu'il y a un but, il y a une victoire par deux buts d'écart. Il y a quelques défaites. Les
points perdus en Ligue suffirait, hein.
Oui, je sais bien, mais disons qu'avant le match aller, je me disais que c'était du 50-50. Allez, là, je suis sur un 60-40, mais ça peut aller très vite.
60-40.
On va dire qu'on a payé pour apprendre ces dernières années.
Tu vois, qu'est-ce que devrait dire
le PSG si vous avez payé pour apprendre? Qu'est-ce que devrait dire le PSG alors que chez les Parisiens, tu as une confiance qui est énormissime? C'est quand même fou,
c'est peut-être ça qui me rassure le plus.
C'est quand même incroyable, quoi.
Concrètement, c'est ça qui me rassure le plus.
Qui arrive en conf aujourd'hui, qui dit on va se qualifier, ce qui est rare pour un entraîneur. La majorité des supporters sont confiants. Les joueurs disent être gonflés à bloc. Tu dis, mais pourquoi vous n'étiez pas gonflés à bloc avant le match aller? Je sais pas. La communication avant les matchs, j'avoue que c'est un truc qui me laisse à chaque fois perplexe. Moi, je préfère regarder les références des uns et des autres, l'histoire des clubs, la forme des joueurs.
Moi, je vois que demain, le match qu'on a eu. Quand même.
Moi, j'ai vu le match aller. Demain, on est d'accord que vous démarrez avec Gundogan, Pedri et De Jong au milieu.
Logiquement, ça doit être ça. Oui, l'équipe proposée serait ça.
Tu le vois comment ce milieu de terrain, toi?
Je pense pas qu'il y en ait beaucoup du PSG qui pourrait jouer dans celui-ci.
Bon, bah,
clairement, le milieu, c'est un secteur
et
du
jeu. Et ta ligne d'attaque, tu la trouves pas bien si vous démarrez avec Lewandowski, Rafinha et qui tu veux comme troisième, Yamal?
De toute façon, Rafinha va jouer parce que dans les gros matchs, il a une telle débauche d'énergie, et un tel apport, notamment sur les
trois que je viens de citer là, c'est pas bien.
Ah ben moi de toute façon, parce qu'on va parler du phénoménal numéro 10 du PSG, j'étais très content que lui s'en aille. Malheureusement, il a trouvé le moyen de marquer à l'aller et que Rafinha joue plus souvent parce que même si Rafinha c'est pas un immense joueur, je le trouve plus efficace et dans le dernier geste, on l'a vu à l'aller et surtout peu avoir d'efforts dans des matchs comme ça.
Ouais, Rafinha à l'aller était exceptionnel. Dembélé qui s'est fait insulter d'ailleurs le pauvre aujourd'hui à Barcelone.
Ouais, en tant qu'ancien, quoi.
Ouais, voilà.
Mais il devrait. Ce qui est dommage, c'est qu'il est insulté pour l'histoire d'avoir fêté son but. Il devrait pas être insulté déjà, mais plus être critiqué sur les 6 années qu'il a passé chez nous et plutôt que pour ce but
au match. Il n'a pas tout le temps été dingue, loin de là.
Non, il nous doit la Ligue des Champions de 2019 pour moi.
C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il.
Bah, avec ses ratés du match aller.
Ah, d'accord.
Contre Liverpool.
D'accord. Oui.
Ouais. Voilà.
Match contre Liverpool.
Bon, ben bah, moi je suis assez étonné finalement je voyais un Barcelone plutôt.
La presse locale est un peu plus enjouée que moi. Hein. Moi, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que alors ça m'a fait rigoler parce que les travers qu'on avait dans la presse française, j'ai encore souvenir de titres voix royale pour le PSG, etc. On les a pas trop eu au moment du tirage au sort dans la presse, surtout la presse catalane. Ça commence à venir depuis le match aller.
Ah mais franchement, l'histoire, on va revenir à 2017. Quand tu gagnes 4-0 le match aller au Parc et la voix royale, oui quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était un fait la victoire. C'est le plus bon match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ils avaient explosé.
Non mais je parlais de cette année.
Ouais. Non, cette année, il y avait pas de voix royale de quoi.
Ah si si.
Au moment du tirage au sort,
des gens qui prenaient leur billet.
Ah oui d'accord
quoi.
D'accord.
Il y a des gens qui prenaient leur billet pour Wembley déjà.
Enfin moi je suis pas d'accord avec Daniel sur les 70-30. Hein. Je pense que ça reste beaucoup plus serré que ça. Et l'état du match aller, je pense que si Enrique
70-30 quand t'as perdu 3-2 à domicile, moi je trouve que je suis résolument optimiste. Hein.
Ouais.
Ça te laisse quand même 30% de chance. Hein.
Ouais ouais.
Sans le
Louis Boulga d'Enrique à l'aller,
si tu prends tous les résultats historiques du PSG, je pense même que t'es à moins de 70-30. Hein, si tu fais toute l'histoire des Coupes d'Europe et en particulier l'histoire du PSG après avoir perdu le match aller, je pense que t'es à 90-10.
Mais bon. Non, mais c'est zéro puisqu'ils n'ont jamais gagné.
Tu penses que Mbappé va être reçu comment demain, lui, le futur madrilène?
Je sais pas si, enfin, il sera plus reçu comme le gars qui nous a mis un triplé la dernière fois qu'il est venu dans ce stade,
à Barcelone.
L'erreur, c'était pas le même stade, oui. Que comme futur Barcelonais, je sais pas s'il sera. De toute façon, Dembélé va tellement prendre à sa place qu'il va peut-être passer entre les gouttes.
Oui, ça peut être Dembélé, le souffre-douleur.
Est-ce que quand tu es supporter du Barça aujourd'hui, quand tu vois la levée de bouclier contre Mbappé parmi les supporters parisiens, etc. Vous, il vous fait peur ou vous dites
On va étonner qu'il fait peur
en ce moment.
C'est quand même un gars qui est capable de sortir une performance sur des gros matchs. Il nous a quand même sorti quelques triplés, dont un fameux en finale de Coupe du Monde. C'est vrai qu'il l'avait annoncé, je me rate pas dans les grands matchs. Bon, bah le match aller, il s'est mis de côté. Mais sur un aller-retour, il trouve toujours le moyen de marquer. Et j'ai encore souvenir de son presque triplé au Bernabéu avec des hors-jeux de 3 cm. Ça passe quand même pas loin pour qu'il fasse mal à chaque accélération. Au match aller, il a été étonnamment transparent. Alors que pourtant, en le voyant aligné à gauche sur le côté de Koundé, je me disais qu'on allait souffrir le martyr pendant tout le match. Et non, il est passé au travers, quoi. Il est passé au travers.
Johan, merci beaucoup pour ce témoignage barcelonais. Et puis, bah, écoute, on verra demain soir. L'after sera là jusqu'à minuit et demi, hein, demain, comme chaque soir de Coupe d'Europe, bien sûr, concernant le club français. Salut, Johan, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Salut.
Bonne soirée.
Bonne nuit, Johan.
On passe à la Ligue 1, les gars, on a tout dit. Voilà, je vous ai parlé de Luis Enrique qui dit de toute façon l'essentiel c'est que ce soit moi-même qui comprenne mes analyses, donc parce que ça vous aura encore plus énervé.
Il est pas né en Corée du Nord, Luis Enrique, il est bien né à Riron.
À Riron. Exactement. À tout de suite avec la Ligue 1 au programme. On va faire la pointe sur la course à l'Europe. On va parler de Rennes. On en a pas parlé hier soir. Entre autres, le maintien. L'actu du jour, bien sûr, d'ici minuit, l'after, donc, spécial Ligue 1. Continue.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h16, ils sont là, Daniel Riolo et Stéphane Guy. Alors évidemment, on a eu un week-end de Ligue 1 tronqué, puisque les matchs des clubs européens se joueront mercredi de la semaine prochaine. Vous pensez que ça va jouer là pour Paris demain, ou alors finalement, bon, pas tant que ça.
Moi, je pense, Barcelone, il avait mis 7 ou 8 titulaires de Paris au repos.
On verra ce que les résultats diront, si c'était bien ou pas, en fait, finalement.
J'ai demandé à Lille, parce que j'ai fait Lille en Coupe d'Europe, quel était l'avis de Fonseca et d'Olivier Létang. Olivier Létang m'a dit, moi, j'avais pas un avis à arrêter là-dessus. Et Fonseca, quand il lui a dit, je préfère pas jouer. Voilà. Donc, c'est le coach de Lille, lui, était content de pas jouer.
Bon. Ce qui ne nous empêche pas de faire un point quand même sur la course à l'Europe. Hier soir, on a parlé longuement de Brest.
Parce que le seul intérêt, pardon, Gilbert.
Vas-y.
Mais c'est qu'au moins, si tu veux, il n'y a plus de blessés ce week-end. Et ils peuvent bien récupérer. Enfin, les clubs qui ont joué le jeudi, comme Lille, je comprends. Quand tu as joué le mardi, comme le Paris, c'était mardi.
Non, c'était mercredi.
Voilà.
Mercredi, ouais.
Je pense pas que ça aurait bouleversé le PSG d'aller jouer à Lorient, mais c'est vrai que tu peux ramener un blessé, tu peux. Voilà, c'est...
Point sur la course à l'Europe.
C'est par rapport à la Ligue 1. Moi, j'ai vu ça nulle part. Hein, parce qu'on dit le Barça n'a pas joué avant le match aller contre Paris en championnat, parce que c'était la finale de la Coupe d'Espagne. Donc là, mais j'ai jamais vu un championnat, en tout cas ceux que je suis, notamment l'Angleterre, s'arrêter parce qu'il y avait des matchs de Coupe.
Non, dans les grands championnats, ça se fait dans les. Oui. Mais ça se fait par. Je sais que le Portugal l'a fait déjà. Enfin, d'autres l'ont déjà fait. Voilà.
Bon. Ah, si à la fin de la semaine t'as fait 0 sur 3,
tu dirais que ça sera que dalle.
Tu pourras te demander quand même. Quoi. Voilà.
Mais si t'as fait 3 sur 3, tu vas dire, c'était peut-être la recette de succès.
Ils vont le refaire pour la demi-finale.
Tu le referas.
On espère qu'ils le referont. Hein.
Sur la course à l'Europe, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur Rennes. Déjà, est-ce qu'on acte Rennes à 39 points, ils sont 10e là. Est-ce qu'on acte le fait que Rennes, qui a 2 points à la 7e place, que Rennes est out of order, ou est-ce qu'on doit encore les considérer dedans? On n'a pas eu le temps hier soir de revenir, parce qu'on a eu un gros match hier sur leur week-end catastrophe, et donc la défaite contre Toulouse chez eux.
C'est qu'il n'y a pas que celle-là sur les derniers mois de défaite. Parce que, alors là, pour le coup, tu peux toujours aller regarder le calendrier et dire, OK, Rennes, ça va jouer à Nantes, ça va recevoir, ça va aller à Metz, je parle pas du Rennes-Brest, et ça va terminer à Reims. Tu peux pas dire, il y a des matchs faciles, il y a des matchs compliqués, puisqu'ils perdent contre Toulouse, ils perdent contre Lorient, en ce moment, ils perdent contre tout le monde. Donc, il n'y a plus aucune référence, t'as l'impression que le club a explosé, que ça n'existe plus, il n'y a plus rien de rationnel, c'est comme Lens. Je ne sais pas si Julien Stéphan a utilisé les mêmes mots que Franquès. Je ne l'ai pas entendu parler, Julien Stéphan. Mais il a été simple, il dit « Je n'ai aucune explication rationnelle à nos performances. » J'ai l'impression que Rennes pourrait dire exactement la même chose. Tu regardes, tu ne comprends rien. Les joueurs ont disparu. Il n'y a plus personne. Plus, comme si les mecs étaient en vacances. C'est fini.
On pourrait dire ça, Daniel, si on n'avait pas déjà vu ça cette saison. C'est-à-dire que Rennes a déjà connu ça avec Genesio. C'est-à-dire que on se dit que finalement, quand ils sont pas dans une espèce de période un peu de remise en cause totale.
Il y a eu une période d'euphorie, Stéphane.
Il s'installe dans un confort tac, il s'arrête tout de suite. C'est vrai que c'est insaisissable.
Il y a une vraie. Le problème, c'est que la Ligue 1, souvent comme ça, te déconcerte. T'es là, tu dis, mais pourquoi cette équipe, elle n'y arrive plus? Pourquoi elle était aussi forte à un moment? Elle avait l'air. Rennes, ça avait l'air sûr de son fait. T'as l'impression que c'était maîtrisé. Ouais. Tu voyais leurs limites, leurs qualités, et ils avaient plus de qualités que de limites d'ailleurs. Et là, d'un coup, tout s'écroule. Et plus personne ne parle, plus personne ne dit rien. Et Rennes ne va pas être en Coupe d'Europe, très probablement, pour la première fois depuis très longtemps maintenant.
Bon, je rappelle en début de saison qu'ils visaient la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Ah mais c'est en termes d'investissement, le rapport euro dépensé et performance, c'est terrible comme échec pour Rennes.
Il y a des clubs
qui est le plus investi comme l'été dernier.
Si aujourd'hui tu prends le classement, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de Rennes particulièrement, c'est effectivement dans le ratio objectif, résultat attendu, résultat obtenu, pour l'instant tu es sur le pire ratio de la Ligue 1. Derrière eux, il n'y a pas une équipe qui avait dit qu'ils voulaient jouer l'Europe. Et ils sont qu'à 3 points d'avance de Toulouse ou Strasbourg.
Pardon, mais Marseille, Lyon, c'est les équipes qui affichent des ambitions quand la saison démarre. Si à la fin de l'année, en
Ligue 1,
Marseille
est encore en Coupe d'Europe. Donc
tu as Marseille, Lyon, Rennes, hors zone Europe, ou en se contentant d'aller chercher une pauvre Conference League, pardon, mais il n'y a pas, que pas une de ces équipes-là vient de me dire que c'est une réussite. C'est, ouais. Ces trois équipes-là, à part si Lyon se sauve avec la Coupe de France, ce sera, on parlera de situation d'échec, clairement. Clairement.
Ah, c'est les gros budgets de Liga.
Bah, bien
c'est
sûr.
C'est les gros budgets de Liga.
C'est des investissements. Ça veut dire que l'année prochaine, t'es pas en Coupe d'Europe. Tes joueurs perdent de la valeur. Toi, tu perds de la valeur. Ça veut dire qu'il faut reconstruire. Ah, c'est pas juste anecdotique.
Quand la saison, une année la sans saison d'Europe, de Rennes, hein. Quand ils vont se poser et qu'ils vont la décrypter entre les changements d'entraîneur, entre l'aller-retour de Matic, entre. Il y a eu quand même un paquet de. De mauvais rebonds, hein.
Et du coup, on pense quoi de Julien Stéphane? Parce que finalement, ça.
Il y en a un qui doit se rassurer quand même, c'est Genesio, parce qu'il doit se dire, il a dû se dire à un moment donné, donc j'étais une pipe, j'avais des mecs entre les mains, j'arrivais, je gagnais pas un match, et l'autre, ouais. Il arrive, il gagne tout. Donc maintenant, il doit se dire, bon, et en général, c'est quand même ce qui se passe. Enfin, quand on connaît les coachs, hein, quand on les connaît pas, comme Grosso à Lyon, on peut imaginer quelque chose d'autre, mais quand on connaît Stéphane, quand on connaît Genesio, ce sont deux bons entraîneurs, il y en a pas un qui est plus génial que, je pense pas qu'il soit plus génial que l'autre, quoi.
Bon, voilà pour Rennes, hein, pas grand chose d'autre à rajouter, hein, sauf que on leur souhaite un rebond.
Non, mais c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que c'est Rennes était un club justement qui était régulièrement en Coupe d'Europe, donc il commençait à performer, c'est un grand mot, mais en tout cas à passer la phase de poule de Coupe d'Europe, à être présent quand même dans les rendez-vous du printemps. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le foot français de voir ce club-là caler.
Dans cette course à l'Europe, il y a aussi l'OM. Alors l'OM est encore en Coupe d'Europe cette année avec le match de jeudi. Mais enfin bon, ils sont là à finalement eux aussi à deux points de la septième place qui pourrait être
européenne. Septième place, c'est devenu le Graal maintenant. Tout le monde, je n'entends parler que de la septième place. La septième place, c'est devenu le Paradise Land.
Enfin la septième place, on rappelle qu'à l'heure où on se parle, tant que PSG n'a pas gagné la Coupe de France,
excuse-moi,
elle n'est pas qualificative.
La septième place, c'est en train de devenir le truc de ouf pour les.
C'est la place plancher.
Mais peut-être qu'il faut. Moi, j'ai une idée.
Mais là, les autres sont un cave sous le plancher.
Mais l'OM 7e, Lyon 7e, n'importe qui 7e.
La Ligue 1 7e,
ça devrait être la place de Reims. Mais qu'on vienne pas me dire que ces équipes-là vont se contenter de la 7e place. C'est une place de tocard. Pour l'OM, pour Lyon, c'est une place de tocard. Bah, c'est incroyable que.
Mais enfin, Daniel.
Je n'entends parler que de cette 7e place. Tout le monde parle de la 7e place. Lyon, c'est devenu objectif 7e place. Mais oh. Lyon, vous faites une super deuxième partie de saison. C'est la fête au village. Génial. Allez, elle a gagné la Coupe de France. Mais ils vont pas nous la ramener à hurler sous tous les toits, sur tous les toits. Ouais, génial. On va être 7e. On va être 7e.
Ah, bah, s'ils sont 7e, ça va être envahissement de terrain à la fin de la saison.
Là, on touchera le fond du ridicule, quoi. À un moment, c'est juste un peu. OK. Genre, si en revanche tu sors le mouchoir, tu t'éponges le front, tu dis putain, soulagé.
Punaise.
Mais pas plus, quoi. À un moment, faut arrêter les conneries. La 7e place, c'est quoi ce nouveau délire, la 7e place?
Tiens, Samy, supporter marseillais là. Salut, Samy.
Salut, bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, très bien. Samy.
Salut. En fait, je voulais réagir par rapport justement à Longoria. Alors, déjà, avant toute chose, je voulais dire bonjour à Stéphane Guy.
Bonsoir.
Parce que quand il était sur le canal, j'avais du mal à supporter, mais sur l'after, c'est le meilleur. Et justement, je voulais parler.
Sur le deuxième avis. Je ne partage ni ton premier avis, ni ton deuxième avis, si je peux me permettre.
Là, mais j'ai en tête, justement, par contre, Gilles Plusin, j'aimais bien sur Gilles Plusin, parce que je trouvais que tu étais vraiment l'animateur parfait pour l'émission. Le ton décalé, ça ressemblait un peu à l'after. Mais là, je trouve que maintenant, t'as encore upgradé ton game, là.
Bon, allez, enchaîne.
Upgradé ton game. C'est bon, ça.
Expression de jeune.
Merci.
Excellent, Samy.
Je voulais donc réagir sur Longoria, parce que. Je trouve qu'il symptomatise parfaitement en fait nos problématiques récentes, dans le sens où, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les deux derniers mercato d'hiver, on a pris 7 mecs, 7 flops. Et je trouve que c'est hallucinant parce que dernièrement, il a eu une tendance...
Tu peux nous redonner les noms, que je m'amuse un peu, des sept tu les as les noms, non? Non.
L'hiver dernier, donc c'était Unai, Vitinha et... Unai, Vitinha et le troisième, pour le coup, j'ai oublié. Et là, cette saison, c'est Onana, Mumbanya, Merlin... Donc encore des flops, et je trouve qu'il y a tendance...
Merlin,
j'ai entendu, oui. Après il y a qui?
Mumbanya, Onana.
Ouais, le crack Mumbanya.
Merlin, tu considères que c'est finalement Mumbanya?
Mumbanya, je pense qu'à part les 36 km/h, il va dans le mur direct, il va pas vers le but adverse, parce que franchement, ce joueur, c'est une catastrophe.
On l'a encore pas vu, moi j'attends de le voir, on peut pas dire, on l'a pas vu encore.
Non mais je pense qu'en fait...
Il joue jamais, le pauvre.
Non, mais je pense que quand on voit ce que fait Bodeglimt en Coupe d'Europe, je pense qu'il y a plein de joueurs à prendre avant lui, parce que franchement, techniquement, pour moi, c'est pire que Brandao. Franchement, je pense que je l'ai fait pas. Ah ouais, franchement.
Moi, je me dis qu'il devrait le faire rentrer de temps en temps en fin de match pour qu'on voit
Brandao, il t'a mis des buts importants. Hein.
Oui, bah, bon, Dao, justement, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais vous avez vu à Gérone que vous avez Dovbik, un attaquant ukrainien qui met des buts, l'attaquant du Sporting Portugal, Gyökeres, qui met aussi beaucoup de buts, et c'est des mecs qui n'ont pas coûté cher. Et pourquoi nous, à l'OM, on n'a pas de neuf comme ça? Le dernier neuf à l'OM qui a marqué 20 buts ou plus en Ligue 1, c'est Gomis en 2017. Enfin, je trouve ça hallucinant. Et en fait, ça montre à quel point on est incapable d'avoir des bonnes idées depuis des années. Et je trouve que, de toute façon, aller en Coupe d'Europe, à quoi ça sert? Enfin, on doit aller en Coupe d'Europe, mais on a une masse salariale XXL. Comment on va faire avec la DNCG? Moi, je suis inquiet pour la suite. Et je pense qu'on n'a pas de joueurs à valeur marchande. Donc, qui on va vendre? Limandia, il n'est pas bon. Unai, il n'est pas bon. On n'a pas de jeunes sans formation qui sortent. Donc, moi, je suis très inquiet pour cet été. Je pense qu'on va devoir encore faire des économies.
Klaus, bonne valeur marchande, Klaus?
Bah, Klaus, il a plus de 30 ans.
Je ne vois pas trop ce que tu vas vendre avec Klaus.
Ah, mais dans l'effectif, c'est qui vaut plus que Klaus?
Je sais pas qui.
Je pense pas que.
Si Balerdi, pareil, tous les clubs d'Europe veulent Balerdi.
Ah oui, Balerdi, peut-être.
Parce que je lis en ce moment.
Balerdi peut être vendu avec
un. Tous les clubs d'Europe veulent Balerdi.
Tu peux prendre une valise.
Et Stéphane, je trouve assez sévère avec Balerdi parce que pour le coup, il a progressé. Et quand j'entendais Eric Dimeco qui disait.
C'est vrai, je me demande s'il n'est pas. Je me suis dit, Espagne, je me demande s'il n'est pas meilleur que Beraldo. Mais j'attends de voir.
Non, mais Dimeco disait à l'époque que Perrin, c'était meilleur que Balerdi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup Dimeco. Mais Perrin, il est en galère à Strasbourg. Balerdi, il n'est pas très loin, je pense.
Balerdi, ça deviendra un défenseur dont on parlera dans quelques temps.
Alors, si je puis me permettre, Perrin, bon, c'est pas Franck Leboeuf, hein, on va pas, voilà. Mais il fait une bonne saison malgré tout à l'échelle de Strasbourg. Voilà. Et je suis même moi-même le premier étonné.
Non, mais je pense que Perrin n'est même pas aussi bon que Djikou.
Marseille, ils savent pas ce que c'est. L'échelle de Strasbourg à Marseille, c'est un escabeau. Hein.
Ah, c'est non, de l'Est, de Strasbourg.
Respecte les grands clubs quand même.
Pour eux, c'est un escabeau.
Et je pense aussi, Daniel, que t'as raison, parce que quand tu parles de Montbagnat, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que tout le shit-storm que t'as pris par rapport à Montbagnat, c'est inadmissible parce que t'as rien dit mal. Et je pense qu'on a tous remarqué que Montbagnat, c'est peut-être des intérêts un peu bizarres, parce que quand j'entends que Longoria porte plainte contre Stéphane Guy, c'est absolument intolérable. Parce que quand on voit le
Sarabou Correa. Il a annoncé qu'il portait plainte.
Oui, bah j'espère qu'il va pas le faire.
On en reparlera.
On a de quoi être un peu circonspect quand on voit le salaire de Correa, quand on voit des transferts alambiqués, et même quand on voit que par exemple Unai a apparemment un salaire, je crois, énorme. Je me dis comment c'est possible que Benatia accepte, parce que Benatia, ça a toujours été un mec qui a travaillé dur dans sa carrière. Comment il peut accepter qu'Unai soit à ce point catastrophique dans la
situation? Benatia, je te rappelle qu'il était l'agent d'Unai, hein, donc.
Ça veut pas dire qu'il trouve les performances d'Unai bonnes, hein. Benatia, t'inquiète pas. Oui. Son sens critique est développé. Il est capable de voir comme toi que c'est insuffisant,
hein. Et justement, j'espère qu'Unai va partir en Arabie Saoudite, puisque c'est les dernières rumeurs et ça nous fera un plaisir pour notre budget, je pense.
Sur Mumbagna, je vous invite à lire l'évaluation qu'a fait l'équipe du match de Mumbagna contre Benfica. Très franchement, en quatre phrases, c'est une fois plus violent que tout ce qu'a dit l'after depuis qu'il est arrivé. Hein. C'est...
Ouais, mais moi, j'ai rien dit moi, sur Mumbagna, j'attends juste de voir jouer.
Mais je crois que Mumbagna n'est pas titulaire, alors que son concurrent, c'est Choupo-Moting, en équipe du Cameroun, donc ça veut tout dire.
Ouais, il n'a pas joué de minute à la CAN.
Voilà,
Choupo-Moting n'était pas là à la CAN, d'ailleurs.
Voilà, alors que même Georges-Kevin Koudou était titulaire avec le Cameroun, donc je pense que ça veut tout dire.
Bah donc du coup, toi tu dis là, l'Europe, on oublie quoi.
Ah, sur Bein,
t'as pas le graal de la 7ème place.
Moi en fait, la 7ème place, moi je suis pas comme Roland Courbis qui dit que l'Europa League Conférence ça vaut rien. Moi je pense qu'il faut la jouer. D'ailleurs, Florent Gautreau aussi dit ça. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on la joue à fond si on peut la jouer. Mais je pense que le problème, c'est que, encore une fois, avec quelle équipe on va y aller. Et je pense que ce recrutement, on va le payer très cher parce que moi je trouve qu'on a aucun joueur qui a une forte valeur marchande. Et je vois pas comment on peut progresser avec Longoria. Il faut vraiment que le club soit vendu, même si il croit pas trop forcément. Mais je pense qu'en l'état, on a vraiment aucune valeur marchande forte. Et sur la fin de saison, ça va être très compliqué puisque on reçoit Nice. Et je pense que si contre Nice on perd ou qu'on gagne pas, ce sera définitivement mort.
Merci Samy.
Merci.
Salut Samy, à bientôt.
Bonne soirée.
Je retiens cette punchline. Stéphane a upgradé son game.
Stéphane, il comprend pas.
Sur Bein, Omar Lafonseca et Luis Fernandez qui doivent vraiment être des tâchons qui comprennent rien au ballon. Le 11 suggéré à Luis Enrique pour demain. Devant, ils mettent Ramos entouré de Mbappé, Dembélé, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha.
Ils mettent Navas dans les buts. Hein, je sais pas si t'as vu.
Ouais.
Navas dans les buts.
Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Hein,
il est capable de nous mettre Navas dans les buts.
Ça serait quoi?
Ça ressemblerait bien.
Je sais pas. Moi, pourquoi je mets la même équipe que ces deux-là qui doivent pas comprendre grand-chose.
Non, Daniel, faut remettre Mbappé demain. Tu mets pas Mbappé demain dans l'état où il est. Après le match aller, il doit pas être titulaire.
Moi, en tout cas, je mettrais ce 11-là. Et là, si ce 11 est aligné, je me remets à vouloir y croire.
Dans un instant, on continue le débat sur la course à l'Europe. On parlera également du maintien d'ici minuit, puis l'actu du jour avec les Brestois très en colère. Toujours 24 heures après le match, on y revient avec vous, supporters de Brest 32-16. N'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h34 pile. Stéphane Guéla, Daniel Riolo également. On était sur l'OM. J'aimerais quand même vous relayer ce qui se prépare jeudi. On s'attend à un OM Benfica à guichet fermé, 64 000 personnes. C'est-à-dire que l'engouement autour de l'OM, 10 000 personnes pour un entraînement ce week-end.
Ouais, ça
64 000 au stade.
Ça monte sans arrêt.
C'est incroyable. Moi, je suis bluffé.
C'est de plus en plus. Et pourtant, on peut pas dire que l'équipe régale. Ouais.
Et en fait, comment expliquer ce on a connu des années avec un stade de Rome qui n'était pas plein.
Ouais, c'est vrai. Ou mais quand il y avait une déception
pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Quand
même, et parfois, c'était une meilleure équipe que celle d'aujourd'hui. Ouais. C'est...
Non, il y a un vrai engouement qui est un peu décorrélé des résultats aujourd'hui. On va.
Mais c'est un peu le foot d'aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est globalement le foot d'aujourd'hui.
Les stades, il y a de plus en plus.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer.
De supporters derrière leur club.
Les messages sur les réseaux sociaux de la chaîne L'Équipe. Qui s'est réjoui de un record d'audience pour le match de Ligue 2 qui retransmettent là, c'était Bordeaux-Bastia.
Ouais.
Et ils ont fait un chiffre assez dingue.
Ils font de très belles audiences sur la Ligue 2.
Pour un match de Ligue 2. Il y a un truc autour du foot quand même qui se passe. Enfin, moi, c'est vrai. Les stades sont pleins, l'OM, c'est fou.
Il y a un truc pas la popularité du foot quand même.
Mais ça n'a pas été tout arrêté l'exploitation.
Comme les matchs ont pu diffuser, il faut bien que les gens aillent au stade pour les voir.
Je vais te dire, je pense que c'est quelque chose que tu peux analyser de façon plus large, qui est même sociétale. Ce qu'on appelle le repli sur soi de la grande société mondialisée se voit également dans le foot. Où tu es derrière.
Tu vas défendre ta chapelle, tu veux dire ?
Exactement, une sorte de repli identitaire à tous les niveaux. Tu défends ta ville, tu défends ton club et tu es de plus en plus mobilisé derrière ta communauté. À l'OM, à Marseille, l'OM est une communauté. C'est le cœur de la ville et tu te regroupes.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau à Marseille, Daniel.
C'est pas nouveau, mais ça peut augmenter. Ça peut concerner de plus en plus de gens.
Mais en plus là c'est quand même un quart de finale retour
clubs,
de Coupe d'Europe. Ils ont perdu 2-1 à l'aller, donc tout est possible. Voilà, et je vois pas
où ça, à Lille, tu dis ?
À Lille, ça ne fait qu'augmenter. Des clubs comme Lorient, là ce qui se passe à Brest.
Strasbourg, on était ce week-end à son 41e guichet fermé d'affilée.
Oui, bien sûr. Le revers de la médaille de ce truc-là, c'est que t'as également jamais eu autant d'incidents dans les déplacements de supporters.
Oui, d'ailleurs,
parce que pour une frange extrême, ce repli sur soi donne la violence. C'est pour ça que les déplacements donnent toujours plus en ce moment d'affrontements. On se donne rendez-vous dans des bars parce que t'as des franges extrêmes de ce soutien, de ce repli identitaire qui se donnent rendez-vous pour se taper dessus au nom de la défense de la terre, quoi. Et on a vu dans des matchs qui autrefois étaient anonymes, le Rennes-Toulouse de ce week-end, c'est hallucinant. 10 blessés graves, un trauma crânien, quoi. On est en plein délire complet, quoi.
Ah oui, ça, effectivement, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, une petite pensée, il y en a qui sont de la route, du supporter brestois, qui était de retour hier, de Lyon. Il n'y a pas eu rien de très, très grave. Enfin, je crois qu'ils se sont fait très peur. Et voilà, le retour sur la route hier entre Nantes et Ancenis, de mémoire. Une fois qu'on a fait ce constat, je voulais qu'on en parle rapidement, mais c'est intéressant parce que c'est une nouvelle fois, ça n'a pas toujours été le cas.
Alors, on a trois matchs européens ce week-end. Passionnant quand même, parce qu'on a trois clubs, même si Paris est moins bien embarqué que Lille et Marseille.
Mais là, sur la Coupe d'Europe, il ne faut pas qu'on banalise. On l'a dit, c'est la première fois depuis 2004 qu'on a ça.
C'est
tous les 20 ans en France.
Oui, puis tu as des matchs allés qui te maintiennent les trois. Et ce n'était pas des tirages simples pour aucun des trois. Et tu es en vie pour les retours. Donc réjouissons-nous.
C'est quand même trois défaites.
C'était trois défaites.
C'est vrai.
Alors, dans la course à l'Europe, je voulais revenir quand même sur Brest, parce qu'il y a deux choses. Déjà, Lesmelou espère très clairement que son carton rouge sera effacé. On va voir ce que va dire la commission de discipline.
Le deuxième jaune, il peut l'être,
Donc c'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, le deuxième jaune n'avait pas lieu d'être, donc il pourrait être... Ça arrive parfois que la commission de discipline revienne.
Sur des problèmes de comportement, je ne crois pas.
Je ne crois pas, mais c'est vrai que le deuxième carton jaune était aberrant. Quand on revoit la scène, le mec qui essaye de le relever, c'est stupide.
Et puis alors, il y a une sortie qu'on n'avait pas eue hier soir parce que c'était très tard, l'after était déjà fini. Grégory Lorenzi, Donc le directeur sportif brestois dont on loue le travail.
Très bon directeur sportif de Brest.
Bah là, il a peut-être un peu quand même. Là, il nous a fait le coup. On dérange.
Ah, il a fait le coup du on dérange.
On dérange. On sait très bien que Brest dérange. Après, il a fait. Je prends la phrase exacte. Il fait. On sait très bien que Brest dérange, peut-être.
Peut-être.
Voilà. Il dit, bon, c'est l'histoire de la Ligue 1, les grosses équipes doivent être tout en haut. Bon, je comprends, là. C'était hier soir tard, hein, donc ils étaient un peu sous le choc. Ils sont tombés
pour le coup sur un arbitre dépassé, c'est tout, c'est ce qui arrive.
Bon. Un peu malheureusement en Ligue 1.
Un peu trop souvent, ouais.
Et puis pour revenir également sur le match d'hier soir, sachez qu'Alexandre Lacazette finalement a fait des examens aujourd'hui et que les résultats sont plutôt optimistes. Il devrait pouvoir jouer contre le PSG dimanche, donc il va y avoir une période de repos sans doute cette semaine. Mais voilà, rien de grave concernant Lacazette, alors que Pierre Sage hier soir était. Attendez avec impatience d'en savoir plus. Sachez également, on remarque, je vais dire Montpellier, je ne sais pas si on peut encore considérer qu'ils jouent le maintien, on va en parler dans quelques minutes, mais.
Montpellier, c'est bon, ils ont fait un peu le taf là maintenant.
Le Midi Libre annonce
c'est comme que. Ça s'est sauvé tout ça, non maintenant.
Ah, tu penses. Bon, on va en parler dans quelques secondes.
Oui.
Enfin, le Midi Libre nous explique aujourd'hui que Laurent Nicolas a prévu de rencontrer très vite Andy Delors en vue de le faire signer la saison prochaine. Voilà, à Montpellier. Montpellier, c'est le club de la fidélité.
Et ça revient, ça revient. Et ça repart et ça revient.
Tu t'en vas, si t'es parti en bon terme, ouais. Tu peux revenir.
Mais pourquoi pas?
Bah ouais, pourquoi pas.
Enfin, il n'est pas parti en très bon terme de l'Europe. Pour le coup, c'était.
Ouais, mais il avait eu un résultat quand il avait marqué choqué. 47 buts avec Montpellier.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Et Nicolas dit même, s'il avait résilié dans les dates légales, c'est-à-dire avant le 31 janvier, je l'aurais repris tout de suite. Voilà ce que dit Laurent Nicolas. Bon, on parlait même à un moment de retraite pour Andy Delors, mais. Voilà, qui pourrait donc rebondir.
Et vous avez vu aussi que ce soir, Lens a recruté un gardien.
Oh, ah non, ouais. Ça m'a échappé.
Kofi, l'international burkinabé, qui a signé à Lens pour la saison prochaine, où on annonce, d'après ce que je disais sur le fil de l'équipe, là, l'éventuel départ de Brice Samba.
Ah bah, s'il recrute, oui, c'est que. Ouais.
Kofi, tu connais bien, tu l'as vu à la CAN avec le Burkina.
Tout à fait.
Qui était à Lille, hein, qui a été doublure à Lille pendant plusieurs saisons.
Oui, donc Samba, on remarque que oui, ce sera assez. Ce Samba, il a peut-être fait son temps à Lens, s'il y a des gros clubs. C'est un excellent gardien.
A fait son temps à Lens, il est là depuis 2 ans. Il n'a pas 10 saisons à Lens.
Ou alors il y a un deal.
Il est possible qu'il soit demandé quand même.
Il y a un deal. Dans un instant, on va parler maintien et encore Ligue 1 pendant une vingtaine
de minutes. On parlait de Lens tout à l'heure parce que Daniel disait que Franck S ne comprenait pas. Moi, ce que je comprends, sans être mieux informé que ça, malheureusement, c'est que ce club-là tirait sa force de sa solidarité à tous les étages. Et que là, il y a quand même, on sent qu'il y a eu avec le départ en coulisses, il y a des frictions, en tout cas des malentendus, des incompréhensions, etc. Et voilà. Et je pense pas que les résultats. Alors évidemment, c'est compliqué de faire des. C'est pas parce que le recruteur n'est pas le bon que les joueurs sur le terrain vont pas être performants. Mais
l'équipe
ça peut créer
backstage, c'est disloqué.
Voilà. Et ça a forcément des répercussions sur le terrain.
Excusez-moi, on était à Lens ensemble au mois d'août. Je me souviens très bien de la parole de certains joueurs lensois qui nous ont dit on sait que cette année, si on fait 6-7e, ce serait une bonne saison pour nous. Là, aujourd'hui, ils sont 6e.
Oui, mais sauf qu'à force de le répéter sans arrêt, parce que moi, le discours que j'ai entendu.
Oui, mais la dynamique dans laquelle ils étaient, c'est pas celle-là.
Moi, le discours que j'ai entendu depuis quelques jours maintenant à Lens, on a le 7e budget, si on fait 7e, c'est bien. On a le 7e budget, si on fait 7e, c'est bien.
Et c'est
pas ça. Raisonner comme ça, alors que Franquès n'a jamais raisonné comme ça, que. Bah, il a tout le temps surperformé. J'y vois comme une forme de résignation. Et quand derrière, en plus, il n'arrive même plus à expliquer la performance de son équipe, on peut se demander si à Lens, il ne va pas y avoir un virage très difficile à mener cet été. Avec certains joueurs qui vont vouloir partir, et peut-être même l'entraîneur qui se dit qu'il a beaucoup donné dans ce club et qu'il a peut-être envie de voir si l'herbe, peut-être pas plus verte, mais si elle est tout aussi verte ailleurs.
Ce qui serait mais le mot-clé de ce que tu viens de dire, Daniel, et c'est ça qu'on a toujours du mal à comprendre dans le foot, c'est qu'ils ont surperformé. C'est-à-dire que la vitesse de croisière de Lens, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas ça.
Ouais.
Et alors, par contre, ce qui est assez incroyable, c'est cette rupture brutale. Parce que encore en février, ils sortaient d'un match où ils gagnaient 3-0 à Lyon, le Lyon qui est numéro 1 en Ligue 1 en 2024. Donc,
mais sauf qu'après, arrive le printemps, les agents, le joueur.
Peut-être.
Je pense à la suite. J'ai peut-être envie de me barrer. C'est peut-être fini pour moi ici.
Généralement, c'est ça. Pour ces clubs-là.
Oui, c'est l'espèce de ressac Ligue des Champions, quoi.
La sortie de l'hiver, elle est toujours pénible. Parce
que l'élimination dans les toutes dernières secondes, hein, contre Fribourg, là,
elle après, a fait. Tu te demandes de quoi ton avenir sera fait. Je le répète, hein. Il serait, en plus, on ne pourrait pas lui en vouloir hein, si Francaise se posait des questions.
Si Francaise... Parce qu'il a fait 4, ça fait 4 ans hein, qu'il est à la tête de Lens.
Excuse-moi, ans pour un entraîneur déjà dans un club. Il ne peut pas recevoir un coup de fil de l'OM. Qui, je rappelle quand même que l'OM cherche un entraîneur. Hein.
C'est vrai.
Moi, si je suis l'OM, je le mets sur ma liste. Je veux savoir s'il est dispo, qu'est-ce qu'il me propose, je discute. Francaise a le droit d'être tenté par une aventure de ce genre-là. Après tout ce qu'il a donné
S'il a des problèmes avec le backstage, faut pas aller à Marseille si c'est un conseil que je peux lui donner. Mais bon.
Ouais, enfin, ça s'est quand même globalement bien passé avec lui depuis qu'il est là.
Oui, bien sûr. Mais Francaise, oui, mais à Marseille, il va avoir envie d'autre chose.
Ouais. Tu vois l'environnement de Marseille? Tu vois ce qui se passe en coulisses à Marseille?
Bon, dans un instant, le maintien. Et puis, on a Corentin, qui est supporter de Toulouse, qui veut parler de son club. Et Vincent Brestois, qui, je crois, est d'accord avec Lorenzi. On se retrouve dans quelques instants dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h46, avant de parler de Toulouse et du maintien, concluons notre débat brestois avec Vincent, qui est là. Salut Vincent.
Ouais, salut l'équipe, ça va?
Bah oui, ça va et toi?
Bah ça va, ça va.
Je signale que nous, tu nous déranges pas.
Hein. Moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je me suis levé avec comme une gueule de bois par rapport au match de hier. Mm-hmm. J'ai pris énormément de plaisir avec le match qu'on a vu. Un très, très, très beau match. Mais malheureusement, c'est triste parce que j'ai l'impression, comme dit Greg Lorenzi, hein, j'ai vraiment l'impression qu'on dérange contre les grosses équipes, quoi.
Mais ça se concrétiserait comment, ce fait de déranger? Tu dérangerais qui, par exemple? Et j'élabore une théorie. Tu dérangerais, par exemple, le président de la LFP qui se dirait « C'est pas bien si cette équipe va en Ligue des Champions, c'est mieux si c'est une autre ?» Ce serait ça, en fait, s'il fallait élaborer le complot, en gros.
Moi, c'est un peu ce que je ressens quand je vois l'arbitrage quand on joue contre Lille, quand on joue contre Monaco, quand on joue contre Nice cette année, même Paris. C'est très, très compliqué pour nous. Hein. L'arbitrage contre les gros, c'est très, très compliqué. Hein. Moi, ça me rend triste. C'est la meilleure saison que je vivrai pour mon club. C'est clairement la seule fois où j'aurai la chance de les voir en Coupe d'Europe, certainement. Et là, maintenant, moi, si c'est pas la Ligue des Champions, je serais presque déçu. Vous comprenez?
Stéphane, on t'entend pas. Ah si, ça y est. Vas-y.
Non, je dis, à 5 journées de la fin, t'es sur le podium, donc c'est normal qu'effectivement, tu rêves de ça, je comprends. C'est le pipi. Surtout, la saison de Brest le mérite, les contenus des matchs de Brest le méritent, y compris lorsqu'ils perdent, quand ils perdent à Lens, quand ils perdent à Lyon. C'est des matchs où ils montrent qu'ils ont le niveau top 4 français, pas de problème.
Ah bah oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la défaite de hier. J'ai peur qu'elle laisse beaucoup, beaucoup de traces pour la fin de saison. Si Lesmelou est vraiment suspendu, là, c'est rouge direct, ça risque de piquer, quoi.
Là, t'es en train de commencer un petit flip en te disant, malgré nos points d'avance, on pourrait encore sortir des quatre premières places.
Les points sont, Monaco, c'est pas acquis là. Hein.
On reçoit Monaco, on va à Rennes, c'est pas simple. Après, la fin est plus jolie. On joue Toulouse, on joue Reims, on peut espérer qu'il n'ait plus rien à jouer, quoi. Mais bon, avant ça, il va falloir faire un bon résultat. Contre Monaco et aller gagner à Rennes, c'est jamais simple non plus.
Bon, moi je suis plutôt confiant pour Brest malgré tout. Je vois pas prendre 3 matchs non plus. Il va prendre un match et puis voilà.
C'est rare que les mecs prennent un match. S'il en prend deux,
surtout qu'il a un gros casier. Il a beaucoup de cartons cette saison.
Moi j'ai peur qu'il ait du sursis. Je sais pas, mais j'ai peur qu'il ait au moins un match en sursis. Ça m'inquiète, quoi, parce que je pense que sans Lesmelou aujourd'hui, on ne joue pas de la même façon non plus. Il faut être assez réaliste.
Hein. Il en est où le maire de Brest avec les travaux du stade là? Il s'est décidé?
Oh, le maire de Brest, c'est très très compliqué. Hein. Oh là là, on va pas parler de trop de sujets qui fâchent, ça va être compliqué.
Oui, parce qu'il ne veut pas faire trop de travaux. Hein,
après, ça s'entend. On va avoir un nouveau stade là. Les frères Le Saint font un très très bon boulot. Ils sont en train de. Nous, on a un très beau projet de stade un peu à l'anglaise, nouvelle génération, qui sera très très joli, mais à taille humaine toujours, c'est une 15 000 places, quelque chose comme ça, donc ça va être un joli petit chaudron. Dommage qu'on l'ait pas pour jouer l'Europe, ça c'est sûr, ce serait dommage. Mais si on peut recevoir à Francis Leblé, nous, on serait heureux.
Ouais. Évidemment. Bon, bah Vincent, écoute, on comprend ta frustration.
Quoi qu'il en soit, tu verras l'Europe.
Accroche-toi. Hein. Oui.
Eh ben, c'est super, j'ai hâte de me déplacer.
Après,
dans les plus
j'imagine
beaux
que tu préférerais voir, j'en sais rien, moi, le Barça ou Liverpool clair. Plutôt que de voir Karabakh ou Baté Borisov.
Ah bah c'est sûr, pour trouver des billets pour aller voir les matchs, ça sera plus facile de prendre l'avion pour aller à Madrid ou à Barcelone. Mais bon, en tout cas, on prend un énorme plaisir cette année, c'est vraiment ultra agréable. Et puis bah on est très très fiers de ce que cette équipe fait avec les peu de moyens qu'on a, et puis surtout le travail de Greg Lorenzi et d'Éric Roy qui est remarquable, quoi. C'est vraiment un réel plaisir, et ce qui fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que bah il y a pas mal de monde en France qui prend énormément de plaisir à nous voir jouer cette année, et c'est assez rare pour le souligner pour nous, quoi. D'habitude, on n'a pas l'habitude de produire du jeu comme ça. Donc c'est vraiment très,
oui,
très
et puis
très
vous ne connaissez pas la Coupe d'Europe?
Ah non, ça c'est sûr.
Vous savez quel est le palmarès de Brest?
Le palmarès
Néant. Il doit être vide.
Néant.
À part titre de Ligue 2,
pas titre de D2.
Ouais, voilà.
Et nous, les belles histoires, c'est le Brest Armorique avant, mais moi, j'ai pas eu la chance de connaître ça. Je suis trop jeune pour avoir connu les belles heures de Brest. Donc là,
les belles heures de Brest, c'est maintenant. Vous avez jamais fait aussi bien, les gars.
Ah ouais, c'est ça. Parce que la légende des
oublie Bernard Pardo, Ginola, Julio César,
Ivinek et Schaker, ok, ça n'a pas duré longtemps. Hein. La plus belle saison de l'histoire du club, elle est là, tu l'as dans les mains. Hein.
Ah bah c'est clair, mais moi là, j'ai un peu peur de cette quatrième place. Je me dis qu'on va se rajouter deux matchs de barrage dans les pattes. La saison prochaine, faut pas se leurrer, ça va être.
Brest va pas libérer les gens pour les Jeux Olympiques.
Ah non. Alors, peut-être qu'on peut laisser Lesmelou si vraiment il en a envie, mais il faut déjà qu'il reste chez nous, ce serait super.
Salut Vincent.
Ça, c'est pas gagné.
Bon bah merci bien, et si je peux juste faire un bisou à mes francs-francs et aux pimpins, et puis bah je vous embrasse, merci pour ce que vous faites, c'est top.
Salut Vincent, à très bientôt. Quentin est là, il est supporter de Toulouse. Quentin, bonsoir.
Ah yeah, c'est Corentin, non pas Quentin.
Hein, Corentin, pas
bonsoir
Quentin.
Bonsoir à tous.
Autant pour moi, Corentin.
T'inquiète pas, Corentin, c'est bon, vous êtes sauvé, hein. Commence pas à chialer, c'est fait, c'est bouclé.
Non. Ah ben bah, je sais bien, c'est justement pour ça que je voulais intervenir.
Pourquoi?
On est en effet, je pense sauvé.
Mais oui, toi, Nantes, Montpellier, les historiques, c'est bon, ça va se jouer avec Le Havre, Metz, Clermont et
Lorient.
Et Lorient,
non,
voilà, c'est là.
Ce que je voulais surtout dire, c'est que voilà, en début de saison, quasiment tout le monde nous voyait descendre avec l'Europe.
Non, moi jamais, moi.
Et c'est vrai, tu faisais partie de l'un des seuls, je sais.
Non, il y a des bons joueurs à Toulouse, c'est solide.
Et on a changé la moitié de notre effectif en début de saison. L'Europe, on n'a pas été ridicule, loin de là, même peut-être l'inverse. Et finalement, voilà, on se maintient. Et comme je disais au Standard, là, il y a Gilbert sur le plateau, Strasbourg, Toulouse. Vous parliez de la superbe et magnifique 7e place. Ben, c'est complètement lunaire de le dire. Mais on n'est qu'à 5 points finalement.
Tout le monde la veut, la 7e place. C'est trop tard maintenant.
Je sais, Daniel.
Non, c'est trop tard.
Je sais, Daniel, mais bon.
Elle a été réservée.
Elle a été réservée, oui. Ben, le truc, c'est que nous, ce week-end, on joue l'OM. Et ça peut faire. Bon, voilà, moi, je dis ça. Personnellement, je n'y crois pas forcément. Mais bon, c'est juste pour montrer à quel point cette saison, la Ligue 1, ça frôle presque le ridicule, mine de rien. Et voilà, et juste pour répondre à notre ami brestois juste avant, justement, on ne sait pas, en effet, ils viennent au stadium pour leur dernière journée, mais nous, quand ça joue en rouge en face, cette saison, on gère plutôt bien, entre Liverpool, Benfica, Monaco, Lille, Nice, Rennes, ce week-end, bon, voilà, il ne faut pas être trop confiant non plus,
c'est bon,
voilà, c'était pour la petite vanne.
Mais quand même, votre coach, là, vous êtes convaincu maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal de débats hein, sur lui. Oui. Est-ce qu'il est au niveau? Est-ce qu'il faut le garder? Novel, toi, tu t'en dis quoi?
C'est-à-dire qu'il a eu un choix fort juste après la CAN et le retour de Logan Costa, hein, qui avait fait une énorme CAN, et l'avènement d'un très jeune qu'on a de la génération de Guillaume Rest, Christian Mawissa. Il est passé à 3 défenseurs. Et depuis ce moment-là, en fait, ça, je sais pas, ça a énormément changé. Et on peut que lui donner du crédit par rapport à ça. Il a totalement changé son dispositif, lui qui est plutôt de l'école, bon voilà, espagnol, catalane avec 3 milieux. Là, il est passé à 2 milieux, 3 défenseurs, enfin 5 plutôt même. Et voilà, mais c'est vrai que oui, en début de saison, puis nous, on a eu la grosse blessure quand même de notre homme fort en début de saison à Bouclal. qui nous a vraiment fait mal contre Saint-Gilloise, le premier match de Coupe d'Europe. Et là, voilà, d'ailleurs, qui est revenu, hein, on en parle, il est revenu titulaire ce week-end. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Cette saison, ça a été une saison assez sous tension à Toulouse, mais bon, voilà, qui est un peu rentré dans l'ordre. Et puis, on a eu la parenthèse enchantée, la grosse parenthèse enchantée de l'Europe, où on y a vraiment cru. Et très honnêtement, j'aurais ce retour en travers de la gorge pendant encore longtemps contre Benfica. C'est pour ça que, ben oui, voilà, Marseille, pour moi, ils peuvent le faire. Franchement, Benfica, c'est pas non plus énormissime. Mais bref, ça, c'est pour tout englober. Et donc, du coup, ouais, voilà, pour te répondre, on peut que dire oui maintenant. Hein. Y a que, désolé pour l'expression et les sous, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis.
Et l'histoire de la vente du club, là, on n'en parle plus trop.
Bon, on n'en parle plus trop. Apparemment, il y a Damien Comolli qui a fait un entretien avec le. Avec les boss, ben, qui sont nos boss aussi, Red Bird.
Comolli, il n'est pas impossible qu'il s'en aille. Hein.
Ben, avec le Comolli,
il est annoncé à Milan.
Alors oui, apparemment, il y a eu, d'après des sources assez sûres, il y a eu l'entretien et apparemment, il n'aurait pas été retenu. Ah. Voilà, mais lui était chaud pour y aller, en tout cas. En tout cas, il est arrivé avec l'entretien travaillé, hein, ça c'est clair et net. Et c'est totalement normal quand tu as le Milan qui vient taper à ta porte. Mais apparemment non, il aurait été refusé. Mais bon, en effet, la vente, on verra comment ça se passe. Hein. On verra comment ça se passe.
Ouais, ça aurait été un mouvement interne en fait.
Une promotion.
Ouais,
c'est le délire des frérots hein, finalement.
Ouais, c'est ça. Ben, oui, c'est
hein.
Ça.
Chacun son frérot. Voilà. C'est ça.
Bah Corentin, merci et à très bientôt pour reparler de Toulouse. Bah,
juste un petit bisou à mon papa et j'avais dit que la prochaine fois que je passerai dans l'after, je le lui dirai. Et Daniel, bah, il t'adore. Voilà, il dit sa phrase, c'est Daniel, il dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas.
Il a bien raison.
L'after le fait en général d'ailleurs. Voilà. Et petite pensée et bisous pour Media Tolosa, les copains de Toulouse, ils se reconnaîtront. Allez,
salut.
Merci les gars.
Salut. Ciao. Corentin, bye bye.
Salut Corentin.
Tout à l'heure, tu t'es énuméré les clubs encore concernés. Nantes, bon, ils ont 5 points d'avance maintenant sur le 16e.
Je dis que c'est sauvé.
Donc Lorient, Le Havre, Metz, Clermont.
Pour moi, il y a 4 équipes là pour la charrette.
Il y a un Le Havre, Metz ce week-end en Ligue 1 qui vaut cher.
Il y a une dynamique Messine qui est pas mal.
Comment on dit dans ces cas-là? Malheureux vaincu.
C'est un peu ça.
Tu me fais peur, Daniel, avec tes yeux.
Bon, Le Havre a quand même 6 points d'avance sur Clermont. Hein, donc Clermont, quand même, ils sont pas bien.
Je me dis 4 équipes concernées par la charrette.
Allez, Survivor, tout de suite.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Ah, avec les résultats, ça a
c'est fini.
Ça a
tout le monde s'est fait ratiboiser. Ouais, tous ceux qui avaient mis Rennes, dont moi, tous ceux qui avaient mis Lens, au revoir.
Voilà, ça m'étonne.
Donc on repart
pas.
Pour un nouveau Survivor, peut-être le dernier de la saison.
Malins, là, à me supprimer mon compte en douce.
Et les 85 vainqueurs touchent chacun 35 euros de free bet.
C'est pas un beau cru, hein, Survivor, celui-là.
Bon, 35 euros de free bet. Bon,
non,
voilà.
Franchement, il était minable. Il y en a eu des plus beaux.
Il y en a eu des plus beaux, en effet. Et puis. Notre grand jeu olympique.
Ah.
Qui c'est qu'on appelle là?
Je sais pas.
On appelle Guillaume. On va voir, ça sonne.
Quel suspense.
Allô Guillaume? Allô Guillaume, est-ce que t'es là?
Oui, je suis là.
Oh Guillaume, t'as gagné mon gars.
Oh là, j'y crois pas les gars, ça va?
Bah écoute, ça va, C'est maintenant qu'il va falloir faire ton choix. T'as gagné les places pour les Jeux Olympiques.
Grâce
à l'after.
Ah, c'est incroyable, là. Franchement, j'ai du mal à y croire, là. C'est ouf.
Alors attends, t'as gagné. Écoute-moi bien. Hein. Faut voir que tu choisisses.
Alors tire à l'arc, tire la carabine à genoux.
Non, n'écoute pas Daniel. soit 2 places pour assister à la finale homme du foot.
Ah, oh, c'est incroyable, les cadeaux.
Ça, c'est au Parc des Princes le 9 août à Paris.
Bon. Ok.
Soit 2 places pour assister aux demi-finales et finales de natation le 30 juillet. Donc ça, c'est à la piscine,
quoi,
la Défense Arena.
C'est quoi comme épreuve que tu
ah bah, y a de grandes chances qu'il y ait Léon Marchand ce jour-là, puisqu'il y a les finales de relais homme, demi-finale homme du 200 papillon, finale homme du 800 nage libre.
Je prendrais la natation aussi. Ah, je prends la natation sans éviter.
Eh ben, t'as raison.
Franchement, les cadeaux, mais d'où on a ces places-là?
C'est incroyable.
Qui a ça chez nous? C'est dans un coffre.
C'est ça. C'est l'équipe des RMC, là, emmenée de main de maître par Stéphane Guy, qui upgrade son game. d'intérim par Grégory Caranoni, il s'occupe des jeux.
C'est dans toute cette bande. De Greg, ça.
Exactement.
Jerry qui a un carnet d'adresses qui lui permet d'évoquer toutes les places de Paris.
Voilà. Exactement. Donc, bah, écoute, Guillaume, c'est voilà.
Merci beaucoup, franchement. Je sais pas comment vous remercier. Je suis trop content. Mille merci à RMC. Hein. Franchement, bravo. Merci beaucoup.
Régale-toi.
Ah ouais, c'est un rêve en plus. ça fait des. Enfin, franchement, c'est incroyable. Merci beaucoup.
Ça fait des
années
que t'attendais les JO en France. Oui, c'est ça.
Salut. Guillaume, t'es parisien? T'es d'où?
Moi, j'habite à Lyon, mais on va se débrouiller pour venir à Paris, sans problème.
Ça marche. Salut, Guillaume.
Comme ça va rouler.
Gros bisous. Merci. Salut, merci.
Tu verras, paradoxalement, tu verras.
Et pour
que
dormir, tu dormiras dans ta bagnole, ça va coûter cher.
Ça va très bien rouler. Tu
Daniel, le français moyen.
Ouais. Bon, je vous quitte en vous rappelant quand même qu'il faut aller sur l'After Prémédia ou la revue de l'After.
Plongeur, champion olympique.
Tais-toi, la revue de l'After vous attend 4,20€ par mois.
Greg Louganis.
Louganis, pas Karagounis.
C'était le champion grec en 2004.
Voilà, je confondais.
Lui qui a marqué lui.
Caristeas,
qui avait joué.
Exactement.
Greg Louganis.
Los Angeles.
L'After.media, voilà, la revue de l'After. Le nouveau numéro sort bientôt. On l'a bouclé ce week-end.
Absolument. Et franchement, il est très très beau.
Ouais.
Tu dois dire.
Comme
d'habitude, mais encore plus beau que d'habitude.
Le sujet, on peut le donner ou c'est trop tôt?
Oui, ça va tourner autour des entraîneurs.
Exactement. Là, on était sur les agents. Gros numéro sur les agents, toujours en kiosque.
En plus, j'ai annoncé que j'avais rencontré Fonseca, oui. Tout ça.
Ouais.
Voilà.
On a hésité entre Loret et Fonseca. On a fait un tir au sort avec Daniel, pile ou face, il a gagné.
Il est où Thierry Loret d'ailleurs aujourd'hui?
Il a pas de club, le pauvre.
Il se repose. Je pense que c'est fin de carrière maintenant quand même. Hein.
Allez, à demain. Demain, Ligue des Champions à partir de 20h jusqu'à 1h30 du matin avec la libre antenne. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.